Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Les enjeux internationaux. La Russie était en deuil national hier après l'attentat commis vendredi soir en périphérie de Moscou, dont le bilan s'élève pour l'instant à plus de 130 morts. L'attentat a vite été revendiqué par une branche centra-asiatique de l'État islamique. Pourtant, cette piste n'a pas été reprise par les autorités russes, accusant quant à elle l'Ukraine. Moins d'une semaine après la réélection écrasante de Vladimir Poutine, quelles sont les conséquences politiques de cette tragédie pour le Kremlin? Bonjour Anne Le Huérou.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Paris-Nanterre et spécialiste de la Russie. Y a-t-il encore un doute sur les auteurs de cet attentat qui a frappé donc Moscou vendredi soir?
Écoutez, pour autant que je puisse savoir, comme un petit peu toutes les nouvelles que nous tous nous lisons depuis vendredi soir, non, je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus de doute sur cette revendication. Alors bien sûr, on peut toujours imaginer toutes les manipulations possibles, et ces théories ont d'ailleurs fait florès pendant tout le
week-end. Oui, sur les réseaux sociaux, là c'est un véritable concours de créativité.
Voilà, de créativité conspirologique, mais pas seulement sur les réseaux sociaux. Samedi, en tout cas, il y avait aussi des représentants de la presse d'opposition qui, je dirais, des gens assez sérieux, hein, qui exprimaient des doutes sur les personnes qui avaient été si rapidement arrêtées. Est-ce que c'était vraiment celles qu'on avait vues qui étaient présentes à Krakow City Hall? Je crois qu'aujourd'hui, il y a évidemment plus de doutes. Notamment, on sait que des organes de presse qui font beaucoup de recherches à partir de photos ont établi que les vêtements portés par les personnes arrêtées étaient les mêmes que celles qu'on voyait sur les vidéos diffusées par la chaîne proche de l'EI. Les spécialistes de l'État islamique, ce que je ne suis pas, mais ont bien tous vraiment vérifié et précisé que c'était cette canal de revendication était authentique, et que en général l'EI ne revendiquait pas surtout des attentats qui n'étaient pas les siens. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas de doute.
Donc c'est effectivement aujourd'hui Daesh qui est considéré comme étant l'auteur de ces attentats. Comment expliquer donc la décision de Daesh de frapper la Russie aujourd'hui?
Alors écoutez, moi je ne sais pas si j'ai tous les éléments, sans doute loin de là, pour expliquer ce choix et cette décision. Donc on peut, d'un point de vue, je dirais, peut-être pratique et logistique, peut-être parce que très occupé par la guerre en Ukraine et très occupé, je dirais surtout sur le plan du travail des services de sécurité, le FSB, très occupé par la répression contre les militants anti-guerre en Russie, occupé par la répression contre la communauté LGBT par exemple, les auteurs de l'attentat, ou les commanditaires plutôt d'ailleurs, établaient sur le fait que effectivement le FSB avait baissé la garde sur cette menace de Daesh, menace qui était pourtant présente et qui a été d'ailleurs indiquée par les services de renseignement américains quelques semaines avant, et voire même auparavant. Donc ça, c'est une première explication. La deuxième, c'est aussi celle, je dirais, peut-être plus sur le fond, que cette branche de Daesh, donc Khorasan, qui est celle qui aurait donc revendiqué cet attentat, s'intéresse à la région de l'Asie centrale et de l'Afghanistan, et que elle a été fondée, d'après ce qu'on sait, par d'anciens talibans et par des personnes qui sont très opposées aux talibans, qui d'ailleurs avaient fait des attentats extrêmement meurtriers juste après la prise de Kaboul en 2021, qui en ont pu en refaire un très meurtrier aussi en Iran il y a quelques mois, et qui seraient effectivement dirigés contre la Russie et les soutiens de la Russie dans la région, justement l'Iran, l'Afghanistan, des talibans, plus peut-être et sans doute, mais là je n'ai pas vraiment la clé, une problématique centra-asiatique avec le Tadjikistan et d'autres pays d'Asie centrale.
Bon, et alors la réaction des autorités donc de Moscou et notamment de Vladimir Poutine consiste à dire que pour l'instant la Russie n'a qu'un seul ennemi, autrement dit Kiev, et que c'est Kiev qui a frappé Moscou. Pourquoi à vouloir à tout prix accuser l'Ukraine?
Ben alors, à mon avis, pour au moins deux raisons. D'une part, pour effectivement masquer le fait que cet attentat peut être considéré comme un échec des services de sécurité dans un pays qui justement est dans un régime qui a tout fait depuis 25 ans que Vladimir Poutine est au pouvoir pour justement, je dirais, faire de la sécurité et la sécurisation du pays et de la population sa marque de fabrique, puisque Vladimir Poutine est aussi arrivé au pouvoir, je dirais, à la suite ou dans la foulée d'attentats extrêmement meurtriers à Moscou également en 99. Donc ça, c'est pour moi, ce serait une première raison, et donc de détourner l'attention sur cette menace qui n'aurait pas été vue ou pas appréciée à sa juste mesure. Et puis d'autre part, bien entendu le fait de pouvoir en rajouter une couche, je dirais, sur l'accusation de l'Ukraine, qui est évidemment le grand ennemi, et la Russie ne pourrait pas avoir deux ennemis, justement. Elle aurait... Donc on oublie Daesh, on oublie ces questions liées au monde, aussi au monde musulman et à ce que la Russie a pu y commettre, et on se tourne évidemment vers le coupable désigné effectivement, quitte à imaginer ou pas imaginer, ça c'est difficile de le savoir, parce que peut-être que ces personnes se dirigeaient vers l'Ukraine ou vers le Bélarus, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, quitte à indiquer une piste ukrainienne sans, vous l'aurez remarqué aussi, directement préciser de qui elle viendrait, par qui elle aurait été commanditée. Donc on fait une piste quand même assez floue, suffisamment martelée, je dirais, dans les médias d'État pour être, je dirais, avalée, gobée par la population. Et voilà, et on espère avec ça aussi pouvoir faire à la fois oublier cette non pas la tragédie, mais en tout cas le fait qu'elle vienne d'un autre ennemi, et que donc il y a peut-être une mauvaise appréciation de la menace du côté des autorités. Et puis de l'autre côté, et c'est peut-être là qu'on va en voir une conséquence aussi, ou plusieurs conséquences les plus importantes, c'est bien entendu prétexter de cette tragédie pour frapper encore plus l'Ukraine, ce qui est quand même aussi la situation depuis la réélection de Vladimir Poutine, et d'autre part peut-être aussi refaire un tour de vis sur le plan interne. On a vu par exemple dès samedi les propos sur le rétablissement de la peine de mort, par exemple.
Oui, d'ailleurs, il y a quand même une forme de cynisme sur cette question-là, parce que c'est un régime qui n'hésite pas à assassiner ses opposants.
Ah bah bien entendu, oui. Bah de toute façon, le moratoire sur la peine de mort est un moratoire effectivement qui s'est assorti de beaucoup de évidemment de
d'entorses
illégales, que ça soit vis-à-vis des opposants, que ça soit au cours de la guerre en Tchétchénie, ou que ce soit voilà dans plein d'autres occasions.
Bon, c'est quand même aussi un revers pour Vladimir Poutine. Apparemment, cet attentat, les Américains avaient averti les autorités russes que celui-ci risquait de se produire. Il intervient quelques jours après la réélection de Vladimir Poutine. Et bon, une réélection extrêmement brillante, comme chacun sait. Bref, voilà. Tout cela ternit un peu ce début de cinquième mandat.
Bien sûr, cela peut ternir ce début de cinquième mandat, et c'est pour ça que cette piste ukrainienne, je dirais, est la seule entre guillemets vendable et acceptable, qui du coup, dans la mesure où elle est liée à la guerre que mène la Russie en Ukraine, je dirais acceptable, parce que justement elle se fond, si vous voulez, dans le tableau général de cette guerre, et permet de accuser d'autant plus l'Ukraine et son commanditaire général, le fameux Occident collectif, bien sûr, de tous les maux et de tout ce qui peut se dérouler à l'intérieur de la Russie. C'est effectivement la manière, si vous voulez, de, entre guillemets, sauver la face pour le régime.
Et voici donc la Russie munie d'un ennemi encombrant, d'un ennemi qu'elle aurait préféré ne pas avoir.
Oui, tout à fait, et d'un ennemi qu'elle avait déjà en même temps, c'est-à-dire d'un ennemi dont elle aurait pu se souvenir. Mais alors après, sur le plan, je dirais strictement opérationnel, il n'y a pas de, moi je n'ai pas de, comment dire, de choses à dire particulières sur le fait que cet attentat était facilement évitable. On sait malheureusement à quel point des services de sécurité qui travaillent sur cette menace, je pense aux services français, n'ont pas pu éviter le Bataclan et les terrasses de Paris le 13 novembre, donc ni l'attentat de Charlie Hebdo. Donc voilà, c'est ça sur ce plan-là, c'est toujours difficile, même s'il y a eu effectivement des avertissements américains, ils étaient peut-être pas précis sur ce jour-là et ces personnes-là, mais oui, ça rappelle effectivement à la Russie, sur le plan stratégique plus général, que en effet, le fait de vouloir aussi donner l'image d'une sorte d'unité du sud global, comme on dit parfois, aux côtés de la Russie dans son combat contre l'Ukraine et surtout du coup, via l'Ukraine contre l'Occident collectif, n'est pas forcément totalement unanime.
Merci Anne Le Héroux. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Paris-Nanterre. Dans quelques secondes, on va évoquer les forêts avec Alexandra Delbo. Ça sera avec Science.